Vous écoutez France Culture, c'est l'heure des... Il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, ce que dit le droit international sur les colonies ou implantations israéliennes en Cisjordanie.
Oui, en annonçant lundi qu'il ne considérait plus les colonies israéliennes en Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est, comme systématiquement illégales, les États-Unis ont apporté un peu plus de confusion au débat. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a assuré avoir examiné soigneusement tous les arguments du débat juridique pour fonder sa position. Ce sont donc ces arguments donc juridiques que nous allons étudier ce matin en direct depuis Bruxelles. Bonjour François Dubuisson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Quand l'administration américaine écrit, je cite, « L'établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n'est pas en soi contraire au droit international », à quels éléments de droit fait-elle référence ?
Mais ça, on pourrait sans doute se le demander, puisqu'il y a un très large consensus international pour considérer que ces colonies sont illégales en droit international, puisque ça a été constaté par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité à la fin des années 70 et puis plus récemment en 2016 par la résolution 2334, donc qui disent toutes extrêmement explicitement que les colonies israéliennes sont une violation flagrante du droit international et en particulier une violation de la 4e convention de Genève qui établit les règles du droit de l'occupation, puisque la Cisjordanie et Jérusalem-Est sont considérées comme étant des territoires palestiniens occupés. Et donc, au terme de cette 4e convention de Genève, et en particulier l'article 49, tout transfert de population civile par la puissance occupante est une violation du droit international et du droit de l'occupation.
Or, on considère qu'il y a eu transfert, puisqu'aujourd'hui, il y a 600 000 colons, selon l'ONG israélienne B'Tselem, dont 200 000 à Jérusalem-Est, la partie arabe de la ville. En 1972, il y avait 1500 colonies. François Dubuisson, il faut repartir de la guerre des six jours. On est en juin 67. Israël s'empare à la fois de Gaza, du secteur arabe de Jérusalem, du Sinaï, du plateau du Golan et de la Cisjordanie, mais avant la guerre des six jours, toujours d'après le droit international, qui avait la souveraineté sur ces territoires, avant que l'armée israélienne n'en chasse l'armée jordanienne en l'occurrence?
Alors justement, c'est effectivement un territoire qui ne se voyait pas de souveraineté reconnue. La Cisjordanie et Jérusalem-Est étaient sous contrôle jordanien, mais en réalité, il s'agissait d'un territoire qui devait encore pouvoir s'autodéterminer, c'est-à-dire que à la suite de l'adoption du plan de partage par les Nations Unies en 1947 pour déterminer finalement le sort du territoire qui était auparavant sous mandat britannique, était prévu l'établissement d'un État juif et d'un État arabe. On a eu un conflit entre 1947 et 1949 qui a vu la création de l'État d'Israël et de l'autre côté donc la prise de contrôle par la Jordanie, mais cette annexion jordanienne n'a jamais été reconnue internationalement. Ça ne veut pas dire pour autant que ce territoire n'a pas de statut, c'est-à-dire que entre-temps s'est développé le principe de droit à l'autodétermination et précisément après la guerre de six jours, on a reconnu très explicitement que ce droit appartenait au peuple palestinien qui devait pouvoir s'autodéterminer.
Alors, Oui, François Dubuisson, les Israéliens aujourd'hui se réfèrent aussi aux accords d'Oslo signés par Yitzhak Rabin et Yasser Arafat en 93 à l'issue de négociations strictement bilatérales et secrètes qui servent aujourd'hui de cadre au processus de paix israélien, peut-être davantage que le droit international et qui ne traite pas spécifiquement de la question de la colonisation, donc ne l'interdit pas en quelque sorte.
Alors effectivement, les accords d'Oslo ont pour objet à la fois l'établissement d'une situation intérimaire avec l'établissement de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'autorité palestinienne, mais sur des portions de territoire relativement réduites, et puis prévoit un contrôle administratif israélien très important sur ce qu'on appelle la zone C, dans laquelle sont principalement établis les grands blocs de colonies. Ça indique simplement que les implantations, c'est le seul terme utilisé, les implantations feront l'objet de négociations sur le statut permanent. Mais on ne peut pas considérer que les accords d'Oslo auraient, disons, validé les colonies qui auraient déjà été construites, et encore moins qu'elles permettaient ou les auraient permis à Israël de continuer le développement de ces colonies. Et d'ailleurs, c'est confirmé par une série de sources qui ont été adoptées postérieurement, puisque si l'on prend la résolution 2334 du Conseil de sécurité qui date de décembre 2016, on a à nouveau une condamnation extrêmement explicite, extrêmement ferme, de la colonisation qui est toujours considérée comme étant contraire au droit international Et puis l'avis de la Cour internationale de justice rendu en 2004 sur la question de la légalité du mur que Israël avait construit en territoire palestinien dit très explicitement que la conclusion des accords d'Oslo n'a rien changé au statut juridique du territoire palestinien et n'a rien changé à l'illégalité des colonies.
Alors Mike Pompeo a peut-être trouvé d'autres articles pour appuyer et justifier sa décision, mais il ne dit pas desquels il s'agit. Pourtant, il paraît avoir mis une équipe d'experts sur le coup. Et il faut quand même rappeler que les États-Unis ont contribué à l'élaborer ce droit international et à le défendre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur Israël aussi, toujours, l'administration américaine a toujours appuyé les décisions juridiques.
Alors, ils sont généralement extrêmement ambigus de ce point de vue-là, et les positions ont varié selon les administrations américaines. Celle qui a été le plus claire, ça a été l'administration Carter en 1978, où là, on a eu véritablement un mémorandum juridique qui a été publié et qui établissait que les colonies israéliennes étaient illégales. Les administrations postérieures ont souvent été beaucoup plus floues, avec Reagan, lui, disant qu'elles n'étaient pas forcément illégales, mais néanmoins disant qu'elles étaient un obstacle à la paix. Et puis donc dernièrement, pour reprendre la dernière position d'Obama, où là, on a eu, sous son administration, l'adoption de cette résolution 2334 du Conseil de sécurité qui réitérait l'affirmation extrêmement explicite et claire de l'illégalité des colonies.
In extremis d'ailleurs, in extremis, Barack Obama a donné son appui de dernière minute.
Exactement, donc là effectivement, on peut aussi pointer du doigt une certaine ambiguïté à tout le moins de cette administration, puisque auparavant il préférait, et comme d'autres présidents avant ça, souvent plutôt parler des colonies comme étant illégitimes ou bien comme étant plutôt un obstacle à la paix, plutôt que se positionner clairement en termes strictement juridiques. Néanmoins, effectivement, les États-Unis sont tenus par eux-mêmes, par le droit international, à la fois par la quatrième convention de Genève, et puis par les résolutions du Conseil de sécurité, qui sont des résolutions obligatoires. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, la position de l'administration Trump est en porte-à-faux avec des obligations qui s'imposent aux États-Unis eux-mêmes de respecter les résolutions du Conseil de sécurité, auxquelles ils n'ont pas mis le veto, justement, en temps voulu.
Alors, la déclaration de Mike Pompeo ne comporte aucun engagement juridique, contrairement aux décisions prises, par exemple, de déplacer la capitale de l'État hébreu de Tel Aviv à Jérusalem il y a un an, ou de reconnaître l'annexion du Golan. Pourquoi cette différence d'approche? Qu'est-ce que ça implique qu'il n'y ait pas un engagement juridique?
Mais ici, effectivement, à la fois, il s'agit de l'expression d'une position juridique générale, mais elle ne va rien changer à l'état du droit international, puisque les États-Unis eux-mêmes tout seuls ne peuvent évidemment pas modifier l'état du droit international. Donc on peut penser qu'elle a surtout une dimension politique qui pourrait être interprétée soit comme un certain gage donné à Netanyahou, notamment dans la perspective, on sait qu'il y aura peut-être encore de nouvelles élections en Israël, ça pourrait être un atout que pourrait faire valoir Netanyahou, les succès diplomatiques qu'il a pu enregistrer auprès de l'administration américaine. Ça pourrait également être un appui à un certain nombre de projets qui existent dans les tiroirs israéliens pour le moment. Il y a des projets d'annexion de tout ou partie de la Cisjordanie, ou de légalisation d'un certain nombre de colonies qui sont elles-mêmes d'ailleurs illégales au regard du droit israélien. C'était à ça que Mike Pompeo fait référence lorsqu'il fait référence au droit israélien pour déterminer la légalité des colonies. Donc ça aura peut-être plutôt un effet politique. Il y a aussi une autre question qui se pose souvent dans les relations entre Israël et les États-Unis, c'est l'utilisation du financement octroyé par les États-Unis à Israël. Il y a parfois eu des débats quant à savoir si ce financement pouvait ou non être utilisé pour la construction de colonies. Ici, évidemment, en levant toute question sur l'illégalité des colonies, ça veut dire que, en réalité, les fonds américains transférés à Israël pourraient être très librement utilisés pour la construction de nouvelles colonies.
Et pourtant, officiellement, le gouvernement israélien ne soutient pas les colons. En tout cas, il y a quelques colonies légales et les autres, officiellement, ne le sont pas.
Je dirais que plutôt le rapport est inverse, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ce qu'on appelle les avant-postes qui ne sont pas des colonies officielles et donc qui ne sont pas officiellement soutenus par le gouvernement israélien. Mais en principe, une colonie ne peut être installée que moyennant toute une série d'autorisations officielles par l'administration militaire et puis par le gouvernement. Donc la plupart quand même des centaines de milliers de colons qui sont présents en territoire palestinien occupé, le sont avec l'aval et dans le cas d'une politique officielle israélienne avec des incitants fiscaux, par exemple, pour encourager les gens à s'installer dans ces colonies. Donc on a plutôt un nombre important de colons qui sont installée avec l'aval tout à fait officiel du gouvernement. Et puis récemment, donc, a été adoptée cette législation qu'on appelle la législation de régularisation, qui permet également a posteriori de légaliser des colonies qui auraient été établies illégalement, en tout cas non officiellement.
François Dubuisson, pour conclure, les États-Unis disent ne pas préjuger des décisions juridiques concernant des situations dans d'autres régions du monde. C'est la phrase qu'ils ont employée pour assortir leur annonce de ne plus considérer les colonies israéliennes comme illégales. Ils pensent à quoi la base militaire américaine de Guantanamo que Cuba voudrait pouvoir récupérer, par exemple?
Ah, probablement pas, parce que là c'est une situation juridique un peu différente, puisque le litige entre Cuba et les États-Unis se base plutôt sur la validité d'un contrat de bail qui a été passé au tout début du XXe siècle, donc la nature du différend est un peu dissimilaire.
Alors Gibraltar, qui se sent davantage espagnol qu'anglais, ou Mayotte, l'île française revendiquée par la République des Comores. Ils mettent le doigt dans un sacré dossier.
Tout à fait. Probablement qui vise au premier chef la question de Crimée-Sébastopol, qui a été occupée et annexée par les forces russes à partir de 2013. Et donc là, c'est une annexion illégale également non reconnue. Il y a également la question de la République turque de Chypre-Nord, qui est l'objet d'une occupation par les forces turques.
Merci beaucoup.
Et qui est un état non reconnu.
Merci beaucoup, François Dubuisson, d'avoir été avec nous ce matin en direct depuis Bruxelles. Bonne journée.